Bonjour tout le monde. Alors, re-bienvenue avec moi, Tania Allaire, sur le divan. Je ne ferai pas un très gros intro à cet épisode. En principe, si vous êtes là, c'est que vous savez qu'est-ce qu'il y en est. Cet épisode sera la partie 2 de mon épisode, mon premier épisode qui est les présentations, dans lequel je vous explique un peu qui je suis et d'où je viens. Tel que promis lors du premier épisode, celui-ci sera beaucoup plus léger. Je vous parle comment tranquillement, pas vite, j'ai été capable de me sortir d'une période assez sombre et vous parler un peu de comment j'arrive à en être assise justement sur le divan ici à m'adresser à vous. Donc, écoutez, si vous êtes là, vraiment merci, j'apprécie tellement votre présence et votre écoute. Ça me touche vraiment, j'espère vous apporter quelque chose qui ajoutera une certaine valeur à votre quotidien, à vos semaines. C'est vraiment la raison pour laquelle je fais ce podcast. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue encore une fois et je vous souhaite un bel épisode. C'est déjà une bataille de moins. Pas fou. Et au moins de me l'admettre, j'ai pas besoin d'avoir aussi peur. Je savais à ce moment-là que je ne passerais jamais à l'acte. D'ailleurs, j'avais des enfants à ce moment-là. Je vais vous en parler. Je vais vous parler de ce beau lien-là qui m'a aidé énormément. Mais j'avais accepté. Je me disais, OK, ben, je vais être quelqu'un qui vit sa vie, tout va bien, tout va bien. Mais on est, hop, j'ai le goût de mourir. Je suis tanné de vivre, genre. Puis je vais la laisser passer. C'est comme un nuage, là. Le ciel est beau, tout est beau, puis à un moment donné, il y a un nuage qui passe. Tu dis, bon, OK, accroche-toi, c'est jamais le fun quand le nuage passe, mais il finit toujours par passer. En passant, je vous le dis, on n'est pas obligé de vivre de même. J'ai plus cette pensée-là, jamais. Vous n'êtes pas obligé de vivre de même non plus. Il y a beaucoup mieux que ça. Mais tout ça, ça a été rough. Après secondaire, je suis allé en sciences humaines. Je savais que je voulais devenir psychologue dans cette famille-là, sous ce toit-là depuis très longtemps. Donc, ça veut dire que tu t'en vas en sciences humaines, puis après tu t'en vas à l'université. Donc, j'ai commencé ça. Puis au cégep, j'étais comme moins là. Et la fille parfaite étudiante et tout, ça a comme craqué. Je foxais toutes mes cours. C'était le jour et la nuit. J'y allais pas. Je me disais, je vais avoir 60 anyway assez facilement. Fait que c'était tout. Donc j'ai passé 2 ans en sciences humaines à juste être là. C'est pas mal tout. Puis, vers la fin de ce temps-là, je me suis dirigée, je me suis réveillée en me disant, regarde, c'est plate là, comme vie, je veux pas faire ça de même, je vais essayer de voir s'il y a pas quelque chose qui pourrait au moins m'intéresser. Puis j'ai découvert un programme en intervention en délinquance à Montréal, la Maisonneuve, et j'avais un peu la chienne d'aller étudier à Montréal à ce moment-là, mais bon, j'ai déjà 2 ans de cégep de fait, je suis un petit peu plus vieille, j'ai 20 ans, et j'en parle à ma mère, puis elle me dit « Écoute, je te vois là-dedans, puis je suis allée faire ça. » Et j'ai adoré, là on avait des cours de psycho enfin pour vrai, c'est plus de français puis de philo, là, c'est... Puis, entre parenthèses, français puis philo, ça peut être vraiment intéressant si t'as un prof qui aime ça puis qui sait bien l'enseigner, là, mais... Et que t'es ouvert à l'avoir, là, les connaissances qui ont à te livrer, j'avais rien de ça, on n'avait rien de ça. Mais à Maisonneuve, j'ai rencontré des profs dans le milieu. C'était des criminologues vraiment qui donnaient un cours de criminologie. C'était des gens qui travaillaient avec des jeunes délinquants, avec protection de la jeunesse. Écoute, c'était fascinant. J'ai adoré mes 2 premières années, je dirais. J'ai gavé cette expérience-là comme inimaginable. Et quand c'est venu le temps de choisir mon stage en fin de formation, proche de la fin, J'ai toujours eu un soft spot, qu'on dirait en anglais, donc une partie de mon cœur très sensible à la cause d'itinérance, toujours. Je me souviens pas quand, jeune, j'ai dû demander à ma mère, on marche à Montréal, je présume, puis je demande pourquoi que le monsieur est assis à terre, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'elle m'explique. Et avec tout le respect qui revient, elle m'explique qu'un itinérant, c'est ce que, tu sais, mathématiquement, là, c'est quelqu'un qui habite dans la rue, qui n'a pas de maison. Et moi, ça m'a... Si, pardon, il y a des gens qui n'ont pas de maison. Parce que dans tout ce que je vous explique au niveau de mon enfance, même si mon père n'était pas présent et tout, on n'a jamais rien manqué. On n'a jamais manqué de rien. Ma mère, elle a toujours travaillé assez acharnée à travailler pour tout me donner. J'ai jamais, elle m'a jamais dit non, c'est pas mal, hein? J'ai toujours eu ce que je voulais. Donc, c'était plus que étrange, là. Il y a des gens qui n'ont pas de maison et pas de bouffe. De quoi tu parles? Et toi, tu sais ça, puis nous, on continue à vivre normalement. Je veux dire, j'étais bon, sidéré. Et rendue plus vieille, que je comprends un petit peu comment la vie fonctionne, que oui, effectivement, il y a des gens beaucoup moins chanceux que toi, Tan, hein? Beaucoup moins, de me rendre compte qu'il y avait en plus des jeunes dans la rue, j'en reviens encore pas, je dis, j'ai le moton de vous en parler, il y a quelque chose qui est un non-sens dans un pays riche comme le nôtre, peu importe, riche comme le nôtre. Qu'il y a des gens qui voudraient manger, qui voudraient une maison, mais qui n'en ont pas. Moi, ça passe pas. Ça passe juste pas, là. Je ne peux pas comprendre que collectivement ou la société, on accepte que ce soit possible. C'est tout. Donc, dans tous les programmes de stage qu'on pouvait choisir, j'ai choisi le bunker à Montréal, sous le chapeau de Bon Dieu dans la rue, qui était, ben, en fait, qui est dirigé, il l'est plus parce qu'il n'est plus des nôtres, un ange d'homme qui était Pops. J'ai cliqué avec cet organisme, cette mission. D'ailleurs, je vais absolument, d'une façon comme de l'autre, retourner, porter aide à cet organisme de différentes façons comme je le peux, parce que je trouve que c'est des. Un, j'ai rencontré les intervenants les plus dévoués, les plus surhumains extraordinaires que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et on s'entend qu'ils ne sont pas payés ce qu'ils devraient, mais pas du tout. Et ils sont exposés à une réalité qui est, je veux dire, dure, il faudrait inventer un autre mot. Et je m'étais dit, bon, c'est le stage que je veux, je lève ma main pour le bunker, malgré le fait qu'il y a plusieurs profs qui me disaient, tu comprends que c'est difficile là, ce que tu choisis. Je dis, c'est ça que je veux. Me disant, je passerai pas, là, ils vont prendre quelqu'un d'autre, je fit pas, parce que je sens que je fit jamais nulle part, n'est-ce pas? Faut pas oublier. Donc, et non, je suis rentré, j'ai commencé à travailler au bunker, avec le cœur, sa planche ouverte et. C'est drôle parce que juste avant d'être accepté dans ce stage-là, j'étais allé voir à l'anonyme. J'espère que ça existe encore. C'est aussi pour l'itinérance, c'est aussi une roulotte et tout ça. Et la fille qui m'avait rencontrée, qui avait peut-être 2 ans de plus que moi à ce moment-là, elle m'avait dit, honnêtement, là, t'es parfaite pour la job, mais je te prends pas. Et je reviens au fait que bonne étudiante et tout, c'est rare qu'on me disait non ou j'ai jamais coulé quelque chose. Là. Fait que j'étais dans tous mes états, je dis, tu me prends pas, mais je suis parfaite, je comprends pas. Puis elle m'avait dit, parce que tu vas être en burn-out dans quelques mois, je te donne 3 mois max. Et je me souviens que je la regarde comme, hein? Comment ça, burn-out? Non, 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 je suis correct, ça va, je sais ce que je veux faire dans la vie, je veux aider dans ce milieu-là. Puis elle me regarde comme, oui, mais moi, je me sors d'un burn-out présentement et je te le dis, la recette parfaite d'un burn-out, tu l'as. Et ça s'était essentiellement fini de même. J'étais parti en me disant, elle est folle, elle se trompe, elle ne me connaît pas. J'ai une force de caractère qui est incroyable. Eh bien, au bunker, j'ai toffé 5 mois et je suis parti en burn-out. Il a fallu que j'admette à mes profs, aux gens au bunker, à tout le monde que je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis plus capable. Je suis plus capable. Ce qui se passe, je sais que les jeunes ne doivent pas le voir et je ne veux pas rajouter à la situation, dans le sens que moi, je suis ici pour aider, c'est pas moi qui est supposé avoir besoin d'aide, du moins pas à ce point-là. Une des choses qui n'était pas parfaite, si on veut, du programme à Maisonneuve, et honnêtement, j'espère que ça l'a changé, pour tout programme confondu, c'est qu'il n'y avait pas d'aide qui est prévue pour nous accompagner dans ce cheminement-là. Je veux dire, peu importe les stages qu'on choisissait, on allait aider des gens qui forcément ont besoin d'aide, donc forcément c'est difficile comme métier. Il n'y avait pas de thérapeute sur place ou même de suggestion de trouver un thérapeute de notre côté. Alors moi, je ne vois rien venir, là. La fille très perspicace qui avait vu très clair à travers mon jeu de l'anonyme, c'est la seule là, qui a comme eu un flag de en passant, t'es en train de crasher, moi je vois rien de ça venir. Et il a fallu que j'arrête. Et j'ai pas fini même mon stage, donc j'ai lâché l'école. D'où je venais, c'était vraiment inimaginable pour moi, là. Et puis c'est drôle, hein, mais malgré le fait que ça allait pas, malgré le fait que là j'avais eu la situation qui fait que tout le monde se revire là, tout d'un coup. Là, les gens se disent, oh, comment tu peux être dans la première de classe, mais tout d'un coup tu lâches. À quelques mois de la graduation, ça n'a comme pas de sens, tu sais. C'était quand même pas si clair que ça allait pas, genre, dans le sens que c'était bon, je suis tanné de faire ça, c'est tout, je vais. À ce moment-là, je travaille au Subway. Je vais retourner travailler dans un autre Subway, puis je vais faire un peu d'argent, puis je vais probablement juste me reposer un petit peu, puis on verra. C'est juste que c'était pas ma voie, c'est tout. Et non, hein, j'ai, oui, trouvé une job dans un Subway et j'ai refait un autre burn-out. Parce que les choses qu'on n'adresse pas, c'est drôle, hein, ça part pas en santé mentale en tout cas. Et cette scène-là aussi, je m'en souviens très bien. Je m'en vais travailler. Tu sais, job-in au Subway, là. Je t'habille en Subway, tout ça, puis je suis dans l'autobus. Et je me rends compte que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Donc forcément, je me rends compte que ça va pas bien, là. J'ai de la misère avec ma respiration, puis j'essaie de faire comme si de rien n'était. Puis là, je trouve que l'autobus, il pas mal plus petit qu'il était au début, puis il y a bien du monde, il y a ben du monde. Je me souviens que je commence à avoir chaud, puis je commence à shaker par en dedans, puis je sais pas trop c'est quoi. C'était ma première crise de panique, mais je sais pas trop, pas encore commencé à lire là-dessus et étudier là-dedans, n'est-ce pas? Donc je sais pas trop qu'est-ce qui m'arrive. Tout ce que je sais, c'est que je dois sortir de l'autobus, dans le sens que tout ce que j'étais était devenu cet objectif. Je dois sortir de l'autobus. Donc, je présume que Sean, il me laisse sortir. Les gens me regardent comme si, écoute, je devais être verte, je sais pas là. Et je suis sorti et je m'en vais travailler en passant. Donc, moi, je sors et je m'en vais à la place, à la bibliothèque, sur Cousineau, parce que c'est ce qui est le plus proche. Ça a été un cadeau du ciel, honnêtement, parce que au moins, je suis pas tout seul dans la rue par rapport. Là. Je suis rentré à la bibliothèque comme si de rien n'était, comme si je n'étais pas attendu au bureau, que je n'étais pas attendu au travail, au boulot. Et j'ai trouvé deux livres, dont Le Cri primal. Tu sais, quand tu files pas, puis tu dis, une petite lecture de chevet, on va lire Le Cri primal, toi. Et un autre livre qui s'intitulait La névrose obsessionnelle. C'est ça. Tu pourrais choisir un petit roman cute, là, à l'eau de rose. Non! Tan a fait quoi? Ça va choisir les deux livres les plus hardcore, les plus difficiles à lire en psychologie. Mais pour la première fois avec ces livres-là, j'ai pu m'arrêter au moins et me dire, OK, ça ne va pas. On va pas commencer à faire des crises de je sais pas trop. Bon, là, en lisant, j'ai comme su c'est quoi qui m'est arrivé, mais je commencerai pas à faire des crises de même partout, là. Il n'y en a pas question. Pas par-dessus tout le reste que je sais que je vis. No. Il y a quelque chose qui me parle, mon corps me parle et je suis tanné de faire comme si j'entendais rien. Cela dit, mon boss m'appelle, me dit t'es où? Et je lui ai fabriqué une histoire rocambolesque, dit je peux pas travailler. Puis bref, j'ai démissionné. Il était content. Ah, il était content. Les gens adorent ça quand tu fais ça, là, les laisser tomber de même. Limite, j'aurais dû être juste vrai, dire regarde, je file pas, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là parce que ça a pris vraiment très longtemps avant de me rendre là. Mais cette une des pires expériences de ma vie, là. Ceux qui ont déjà vécu une crise de panique, vous savez, là, c'est. Je dis, tu penses que tu fais une crise cardiaque, c'est sûr, peu importe ton âge. Et plus tu paniques, plus c'est paniquant, plus tu paniques. Extraordinaire. C'est ça, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Depuis, parce que j'en ai fait quelques-unes de plus, juste pour être sûr vraiment que c'était un enjeu pour moi. Maintenant, bon, j'en fais plus. La dernière que j'ai faite, ça fait super longtemps. Et si jamais, parce que jamais de la vie, est-ce que je me dis à l'abri de toutes ces choses-là, là, en passant, quand vous allez m'entendre parler, sachez que, à date de longtemps, je ne veux pas l'appeler ma dépression, fait qu'elle date de longtemps, il date de longtemps, mon état dépressif, disons, je me sens moins attaché à la chose, de cette façon-là. Mais je sais que je suis pas à l'abri, là. Il y a des trucs qui pourraient absolument m'arriver. Et même des fois, juste rien qui t'arrive officiellement dans ta vie et je retombe, là. Donc, c'est quelque chose que je vais toujours avoir à guetter. Mais bon, crise de panique et gros état d'âme, très, très, très down. Ça fait longtemps, heureusement, que Dieu, c'est extraordinaire que je peux dire ça. Je pensais jamais pouvoir dire ça, que je m'en suis relativement bien sorti. Mais maintenant, je sais que j'aurai des outils. Et c'est ces outils que je veux vous partager sur le divan, n'est-ce pas? Pour éviter ces choses-là. Et si j'y suis dedans, comment m'en sortir sans que ça me prenne des années? Cette expérience-là, l'expérience d'autobus que j'appelle, a été un point hyper important, très culminant, tournant, appelez-le comme vous le voulez, je veux dire, c'est une crise existentielle rendue là. Et du haut de mes 21 ans, je me suis dit, ben écoute, l'expression if you want to learn, teach, tu voulais être thérapeute avant. Je suis pas mal sûr que tu veux l'être encore. Là, tu te rends compte que, ah, il y a des petites zones d'ombre que tu aurais à regarder. Il y a des trucs dans l'angle mort, en fait, que tu n'avais pas vu. Non, tout va pas bien, pas du tout. Là, évidemment, mon enfance et tout me remonte, puis je me dis, ah, ouais, non, c'était pas parfait, ça non plus. Je vais aller étudier là-dedans, puis je vais comprendre. Et si en plus j'arrive à aider du monde, yes. Si en plus je peux gagner ma vie en le faisant, double yes. Alors c'est ce que j'ai fait. Et tu sais, les petits clins d'œil de la vie, je suis tombé, je me souviendrai, je me souviens pas comment. Je pense que c'est sur l'Internet, sur le CRAM, le Centre de relations d'aide de Montréal, sur leur site Internet. J'ai commencé à lire là-dessus. Je me suis dit, bon, c'est à Montréal, ça commence déjà bien. J'ai du temps maintenant parce que je suis plus à l'école et je ne travaille pas. Seul enjeu, c'est qu'il faut payer cette formation. Et j'ai ma maman qui m'a dit, ben, tu sais quoi? J'aimerais mieux te donner mon héritage de mon vivant, puis voir qu'est-ce que tu vas faire avec, de un, mais de deux, voir que tu fais quelque chose de pas mal extraordinaire avec, que te le garder pour un moment plus tard, quand je te verrai pas, et ça sera peut-être même plus de temps que tu en aies besoin, parce que tu auras ton propre argent. Et elle a accepté de payer ma formation. J'y dois bien des choses à cette femme-là. Ça, c'était quelque chose. Le Centre de relations d'aide de Montréal, je vais vous laisser les liens au bas de l'épisode. Cette école-là, qui a été fondée par Colette Portelance et François Lavigne, m'a sauvé la vie. C'est tout. C'est tout. Okay. J'ai fait plusieurs formations. J'en ai fait avant, j'ai parlé de ma technique. J'en ai fait beaucoup après et je vais en faire une tonne encore. Étudier, c'est une des choses. Étudier, lire les conférences. Maintenant, il y a un paquet d'affaires en ligne auxquelles on a accès. J'en mange. C'est pour ça que je sais que je peux faire un podcast avec ça parce que tout m'intéresse. Il n'y aura pas, il n'y aura jamais une école de formation qui, dans le fond, ça a été fondé par Colette et son mari, François. Mais j'ai rencontré leurs enfants dans tout ça. L'école est dirigée par Guillaume et Marie, qui sont deux de leurs enfants. Cette famille-là, parce que pour moi, oui, c'est une école, et je veux la promouvoir, donc je vous parle d'une école vraiment. Pour moi, c'est une famille. J'ai travaillé là, j'ai fini par aller à la formation. Je pense que j'ai fait application la veille de la date limite. J'étais arrivé là-bas, il fallait passer une entrevue et l'homme qui m'a passé en entrevue, un homme exceptionnel, il dit, écoute, je vais être honnête, je vois quelque chose en toi, fait que je t'accepte, mais j'ai aucune idée comment tu vas faire pour payer la formation parce que c'est là que ma mère a dit à lever la main. Et tu es jeune, j'étais beaucoup plus jeune que la moyenne d'âge, puis il devait se dire, puis peut-être même pas oser me le dire. Pas sûr que tu es prête, fille. Pas sûr que tu es prête, mais si tu veux la place, elle est à toi. Puis je pense que je me retrouvais dans la salle de cours une semaine plus tard. Tu sais, quand la vie dit c'est par ici, j'ai eu beaucoup de ces expériences. Je vais vous en partager. C'est les moments les plus magiques de ma vie. Si j'avais pas cliqué sur le lien qui m'amenait à cette école, si j'avais pas accepté, si ma mère m'avait pas donné l'argent, je veux dire, je ne sais pas si je serais encore ici. C'est à ce point-là. Si ça vous parle, allez voir leur site, allez dans cette direction-là, regardez si vous avez le moindre élan. Si vous êtes déjà aidant, et je dis le mot aidant parce que c'est tout ça, c'est nos infirmières, nos médecins, tout ça. En passant, merci pour les 2 dernières années. Comme, Merci. Vous êtes thérapeute, vous êtes coach, vous êtes parent, vous êtes, je veux dire, peu importe, c'est une école qui nous reconnecte à nous-mêmes et aux autres. C'est essentiel pour un travail d'aidant, selon moi, de se regarder et de regarder nos relations et regarder ce que nos enfances respectives ont pu laisser en nous de bon comme de plus difficile. Et non seulement j'ai fait la formation de peine et de misère, je suis arrivée là, dans la salle, il y a des Kleenex partout, et je vous le dis, là, je suis naïve à ce point-là. Pourquoi il y a plein de Kleenex? Comme si la fille a juste a rien compris, là. Tu viens de faire deux burn-out, t'as 21 ans. Tu veux devenir thérapeute, tu penses que... Oui, moi, je pense que c'est une autre formation, puis Et moi, je pleure pas, en tout cas. Non, moi, je pleure pas. Moi, tout baigne. Tout va bien, je vous dis. Et non, c'était pas ça, c'était pas ça. J'ai eu à me rendre compte à quel point hypothéqué j'étais à ce moment-là. Les mécanismes de défense que je m'étais créé étaient des murs de béton qui ne finissaient pas en hauteur. Bref, j'ai fini par travailler 2 ans à la réception de cette école exceptionnelle, qui maintenant en plus, vous pouvez avoir accès à tellement plein de programmes qu'on ne pouvait pas offrir ou qu'on n'offrait pas à l'époque, qu'ils n'offraient pas à l'époque en ligne. Et ma colonne vertébrale d'aidante, c'est le CRAM qui me l'a donné. J'espère que vous l'entendez. C'est une école que j'aime, gang. C'est une école, une famille, une formation qui est la NDC. Je vous laisse aller fouiller. Je ne veux pas trop vous en dire, parce que vous ayez le goût d'aller voir. Si ça vous parle probablement pour une raison. Et je me suis rendu compte de tout le ménage que j'avais à faire. J'ai commencé à lire sur la psychologie et j'ai jamais arrêté. D'ailleurs, je lis, je lis, je lis, j'ai tout ce qui m'intéresse. Il y a tellement d'affaires. Il y a plein. Je vais vous partager mes livres les plus importants, c'est sûr. Puis je le fais pour vous, mais je le fais honnêtement pour moi parce que quand je tripe sur quelque chose, quand je tripe sur un livre, il faut que j'en parle. Honnêtement, j'ai peut-être créé le podcast pour ça parce qu'il faut que j'en parle tout le temps. Bref. Vous m'excuserez, si ça vous intéresse, tant mieux. Puis sinon, ben, je parle moi avec moi, puis c'est correct aussi. Je suis allé après faire une formation en coaching PNL, aussi à Montréal, aussi une école super pour former des coachs individuels de couple en entreprise, qui est maintenant dirigée par Guillaume Leroutier. Écoute, ces deux formations qu'on a à Montréal, c'est un investissement de temps, d'argent, je vous le dis là. Mais bon, un, quand c'est pour nous, on dirait les choses se placent, puis je l'ai trouvé l'argent. J'étais jeune, là. Il n'y a pas vraiment de façon de m'expliquer comment j'y suis arrivé, mais j'y suis arrivé. Ce que j'ai gagné comme bagage avec ces deux formations, c'est. On ne peut pas le mesurer, là. Je suis tellement privilégiée et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu le privilège, parce que ça n'est un, d'avoir accès à tout ça. Essentiellement, le podcast va être ça. On parle de ce qu'on vit, je parle de ce qu'on vit, je parle de quand c'est difficile, je parle de quand c'est vraiment beau, puis c'est vraiment cool, puis qu'on en veut juste plus. Parce qu'il faut saupoudrer de tout ça, d'affaires le fun. Sur le divan, on n'est pas obligé de juste broyer, n'est-ce pas? Et en même temps, je vous partage toutes les façons que j'ai trouvées qui ont fonctionné, qui pourraient donc fonctionner pour vous, pour naviguer à travers ma vie avec un petit peu plus d'aisance. Bon, je ne suis pas votre coach. Le but n'est pas ça. Puis honnêtement, c'est parce que je ne peux pas coacher des centaines de personnes non plus. Ce serait trop. Le podcast, c'est un peu ça aussi, d'essayer que ma voix puisse rejoindre juste plus de gens possible et que vous puissiez en profiter, peut-être pas à la même hauteur ou mesure qu'un client avec qui je serais bon face à face, mais en même temps, il y a des choses que j'ai eu à apprendre et que j'ai eu à faire, créer, changer. Et j'avais comme toujours tendance à prendre les plus gros détours. Et heureusement, parce que maintenant, je peux vous en parler très clairement de qu'est-ce qu'on devrait éviter de faire parce que je l'ai fait et ça ne marchait pas. Donc, on va parler de ces choses-là, mais en même temps, les choses qui ont pu fonctionner. Je veux dire, on va parler de méditation, on va parler de thérapie, de coaching, c'est sûr, mais on va parler aussi des trucs qu'on porte, les anciennes craintes qu'on veut juste plus traîner quand c'est plus nécessaire, les façons qu'on s'est protégé en tant qu'enfant pour survivre psychiquement des trucs qui étaient juste trop difficiles pour nous à ce moment-là. Tous les mécanismes de défense qu'on a bâtis, qui nous ont protégés le temps qu'il fallait, le temps qu'on devait s'aider et survivre à des trucs trop difficiles pour un enfant de gérer et de survivre. Donc, on les remercie, ces mécanismes, puis en même temps, on les remercie et on peut les laisser aller quand ils deviennent des boulets. Donc, j'ai envie de partager toutes ces choses-là. J'ai envie qu'on puisse partir une discussion sur les réseaux sociaux, puis de se parler de vous, évidemment, vous avez essayé d'autres trucs peut-être, puis qu'on puisse s'échanger sur « Ah oui, moi j'ai essayé ça, ça fonctionne pas, peut-être ci, peut-être ça, puis OK, là je vis une autre période rough, y a-tu quelqu'un qui peut juste m'envoyer une pensée positive, y a-tu juste quelqu'un qui pourrait me dire qu'est-ce qu'il ferait dans telle situation? » J'ai le goût de créer une communauté de gens qui se ressemblent, parce qu'on se ressemble tous souvent, et qui ont envie de s'entraider dans des... à travers une vie qui peut être vraiment extraordinaire et vraiment extraordinairement belle, mais qui a ses embûches et qui a ses difficultés à traverser, considérant qu'on est tous dedans le bain, là, ben on peut peut-être s'entraider puis se rendre ça un petit peu plus facile en juste partageant qui nous sommes puis en regardant ce que ça donne de l'autre côté. Parce qu'avec tout ça, je m'en suis sortie. Ça a été difficile, comme je vous dis, d'avoir essayé de le faire tout seul a son cachet de un bon. C'est moins confrontant, I guess. Mais c'est sûr que je connais le trou, vraiment, parce que je suis restée là longtemps, et je connais les chemins pour s'en sortir. Je connais c'est quoi avoir l'impression d'approcher trop proche du trou. Je veux dire, le fait de l'avoir fait seul, c'est que j'ai eu à gérer, être l'aidant et l'aider. Donc, je peux bien m'asseoir dans les deux chaises. Donc, sur le divan, bien, je peux prendre les deux places. Et je pense que c'est un des meilleurs attributs qui m'aide à vous aider potentiellement, parce que je l'ai fait seul. Je l'aurais fait autrement, honnêtement, mais bon, maintenant que c'est fait, voici le bon côté. Faisons de la limonade avec les citrons, n'est-ce pas? J'avais aussi ce chum extraordinaire à l'époque et encore maintenant qui mérite un trophée. Je dis pas qu'il est parfait, là. Ah, ça aussi, je risque d'en parler, mais moi, je suis pas la blonde la plus facile à plein niveau. Tu sais, avec tout ça, là, tout ce que je vous raconte, vous imaginez pas nécessairement quelqu'un qui est facile à vivre, c'est ça, c'est bien saisi. Mes trois enfants, nos trois enfants qui viennent évidemment rajouter de tout, du bon, full bon, puis du rough, full rough, donc... C'est la dynamique qui est la mienne et en même temps, c'est ce qui fait que j'ai définitivement une raison non seulement de rester une journée de plus à chaque jour, mais que j'ai définitivement une raison d'aimer le temps que je passe ici, ne serait-ce pour eux. Mais en plus, même maintenant, je trouve que j'en vaut la peine. Et ça, là, j'ai fait du chemin pour pouvoir non seulement ressentir ça, mais pouvoir vous le dire, là, c'est le feeling qu'avait, OK, en plus, considérant tout ce que tu as vécu, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai traversé, là, on va avoir du fun. Là, on va se permettre de la facilité. Là, on va lever la main quand ça va pas, puis on va lever la main quand il y a quelque chose qui passe plus, que j'accepterai plus. Ça m'a pris du temps, mais là, je me suis battue pour me rendre où je suis. Je vais avoir du fun les années qui me restent. Et quand on a commencé à penser ou parler d'avoir un enfant, donc Sean qui a maintenant 18 ans, on a eu la conversation qu'on est tous supposés avoir, là. Bon, moi j'avais 26, lui il en avait 28, on n'est pas si jeune, mais c'est une grosse décision. Donc, la conversation de, bon, comment ça va notre couple, financièrement, OK, on a-tu un appart qui a de l'allure, OK, bon, on va avoir tout ça acheté, on est-tu capable? C'est un gros investissement de tout cœur, âme, argent, temps, je suis capable de pas dormir, moi, là, pendant, je sais pas, tout le monde me parle de plein de mois, cette conversation-là. Et même idéalement, comment toi tu vois élever ton enfant? Ça pourrait même être poussé jusque-là, là. Je pense pas que nous on l'a fait, mais la conversation que j'ai eue à ce moment-là, moi avec moi, c'est OK, j'en veux vraiment un enfant en plus, j'en veux vraiment un, mais si j'en fais un, je perds la porte. Puis encore là, ceux qui comprennent très bien ce que je vous partage depuis longtemps. Et on comprend la porte, le out. Je perds la possibilité que si ça devient trop rough, je m'en vais. Et avec toutes les autres questions qu'il fallait se poser pour avoir un enfant puis prendre cette décision-là dans l'intégrité, cette question-là pour moi était non seulement la plus tough parce que je ne l'ai pas avec mon chum, celle-là, je l'ai moi avec moi. Parce que mon chum ne le sait pas, là, je sais, il ne voudra peut-être pas faire un enfant avec quelqu'un qui pense suicide, là, des fois, même si c'est des fois, bon. C'est quelque chose que j'ai décidé de garder pour moi, mais il a fallu que je décide parce que ça, je ne peux pas le faire à un enfant. Vous l'avez entendu, j'ai un rapport au suicide qui est là depuis un bout. Je savais que si j'ai un enfant, je reste, peu importe. Et j'ai décidé à ce moment-là, OK, j'en veux un à ce point-là. Ça devait quand même aller assez bien à ce moment-là dans ma vie, j'espère. Et malheureusement aussi, par contre, je me suis dit, probablement que d'avoir un enfant va juste régler les affaires. Probablement qu'avoir un enfant va faire que j'aurai juste plus le goût de partir, c'est tout. Ça fait pas ça. Ça fait pas ça pour bien des gens. J'espère qu'il y en a qui ça fait ça, mais faire un enfant en disant que ça règle tout, on est comme tout porté à penser ça. C'est tout ce que. Comme avoir de l'argent, en fait. Tout est sous un microscope, mais exponentiel. N'importe quoi que tu n'as pas voulu regarder, tu vas être forcé de le regarder. Aussi difficile que tu penses que certaines choses sont, il y a plein de trucs plus difficiles que tu n'as juste pas vu venir. Donc, ça aide pas les choses. Ça embellit la vie, là, oui, mais ça aide pas les choses. Et malheureusement, la pensée est revenue après, sauf que j'avais quand même de fond, je pense, un engagement, moi avec moi, mais moi avec cet enfant-là que je voulais tellement que, quoi qu'il arrive, je ne vais pas le laisser pas de mère, volontairement ou en faisant exprès. Ou du moins, ce que je me disais, c'est que je vais tout faire pour pouvoir rester. Disons, c'est un petit peu plus réaliste, c'est ce qu'il y en est. Et j'ai fini par, ici et là, me rendre à savoir que foncièrement, j'étais correct. Que de fond, c'est pas que j'avais quelque chose de brisé, c'est pas que j'avais quelque chose qui me manquait, c'est pas que je l'avais eu même plus rough que bien d'autres mondes, parce que oui, OK, peut-être, mais il y en a bien plus qui l'ont eu bien plus rough que moi aussi, là. Fait que c'est pas ça. C'est, bon, je fais de la sorte que bien des choses m'affectent beaucoup. Je fais de la sorte que souvent, je m'acharne à vivre ou souffrir, ou même mes joies, tu sais, les vivre toute seule. Je suis introvertie, je suis sensible, je sais, c'est ça. Mais bon, ça l'a. C'est tellement des belles qualités à plein de niveaux. Et là, maintenant, je les reconnais et j'arrive à m'en servir. Mais au niveau de la vie, comment que c'est fait, la vitesse avec laquelle ça roule, la compétition qui existe, à quel point il faut performer de nos jours en tant que mère, en tant que n'importe quel travail, l'argent que tu fais, c'est fou, là. C'est fou, là. Donc, pour les hypersensibles, c'est plus difficile. Mais il y a moyen. Il y a moyen non seulement de s'en sortir, d'avoir une vie vraiment pas pire quand tu comprends de quoi elle est faite, de quoi toi t'es faite, qu'est-ce que tu as besoin, puis que tu commences tranquillement, pas vite, à avoir le goût de reconnaître ta valeur. Enfin, c'est juste ça. C'est juste ça. Ça m'a pris du temps avant de admettre les façons que je vis, les choses peut-être plus difficiles que j'aimerais l'admettre. Et surtout en tant qu'aidante, bon, il y en a plein qui m'écoutent qui peut-être, c'est jamais quelque chose qui aurait été dans leur corde, qui ne voient pas nécessairement, qui ne se voient pas comme thérapeute ou comme coach. Mais s'admettre que le service que tu cherches à offrir, même toi, tu as des lacunes, puis tu as des problèmes, puis tu as des difficultés là-dedans. C'est sûr que c'est bizarre, c'est confrontant. c'est très confortant. Il y a une partie où je me disais, je suis thérapeute. Ah ouais, là, donne-toi de la thérapie, puis tu sais, puis c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Comme les gens ont besoin de toi, tu as besoin de quelqu'un d'autre, c'est la première chose. Donc, j'ai besoin d'être suivi. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui. Et sur qui je peux compter, à qui je peux raconter toutes ces affaires-là, là, tous les trucs dont je vous parlais qui sont dans l'angle mort pour pouvoir m'aider à avoir plus clair, à avoir une perspective et avoir vraiment la perspective, ce que ça donne, c'est que ça donne du recul pour pouvoir voir ta situation avec un peu plus de légèreté puis un peu plus de distance pour essayer de comprendre ce qui se passe, où ça manque, de quoi tu as besoin. Faire des meilleurs choix, te créer une vie qui palpite, là. Tu sais, je veux dire, ultimement, là, le succès, c'est le bonheur. On le sait, ça n'est rendu comme tellement réchauffé, on sait que c'est ça. Si tu ne vis pas majoritairement dans l'enthousiasme, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout. L'enthousiasme, la joie, là. Pas... correct, pas la journée a été popée, j'ai pas vécu de grosses affaires, pas, je sais pas ça, de l'enthousiasme. Ça m'a pris du temps avant d'arriver là, beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et c'est pas toujours ce que je vis, s'il vous plaît, entendez-moi, ce n'est pas du tout ce que je vis à tout moment, mais c'est définitivement, c'est jour et la nuit avec ce que j'ai connu. C'est jour et la nuit avec ce que j'ai connu. La dernière période sombre que j'ai vécue, de laquelle je suis sortie, ça fait à peu près un an, petit à petit, ça aussi je vais vous en parler beaucoup en essayant un paquet de différents trucs pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui m'aide pas, qu'est-ce qui me nuit, mais bon. Ça a été long, mais quand même. La dernière période sombre a duré à peu près 6 ans. Donc pendant 6 ans, par intégrité encore, j'ai arrêté de coacher, j'ai donc arrêté d'aider les gens sous toute la ligne et je me suis éteinte carrément en étant que mère et en étant au travail, dans le sens que je ne suis pas une employée extraordinaire, vraiment dans le sens que je faisais ce que je pouvais et c'était pas mal tout là. Puis tous mes rêves, tout ce pourquoi j'avais étudié, puis ben, j'avais ma pratique, je pratiquais depuis quelques années, ça allait bien, les gens du moins, ils avaient l'air d'aller mieux, ils me disaient que je les aidais, et j'aimais cet accompagnement-là, mais la dernière fois que j'ai crashé encore. Et là, je suis aidante, pour vrai. Donc, ça a été tellement difficile de juste vivre avec la culpabilité d'avoir l'impression de laisser des gens tomber. Bon, au moment où j'ai arrêté, tous mes clients avaient fini leur séance, dans le sens qu'il n'y avait pas de besoin immédiat, donc je sentais que c'était un bon temps pour prendre une pause. Je ne pense pas qu'elle va durer 6 ans, la pause. Je veux 6 mois, gros maximum. Puis ça a été bien plus difficile que ça. Et bien plus long que ça. Et encore, on se souvient, toute seule, donc plus long, nanana. Bon. Mais quand le déclic s'est fait, quand j'ai justement commencé à voir les gens qui souffraient autour de moi, commencé à me rendre compte que les listes d'attente débordent de partout, bon, ça a commencé par de la culpabilité que toi, tu peux aider puis tu choisis de ne pas le faire. Ça, c'est... Bon, c'était là parce que c'est de même que je suis faite, mais en même temps, je me dis que je suis pas capable. Je veux bien, je vais me sentir coupable, c'est ça qu'il faut, mais je ne suis pas capable d'aider quelqu'un, j'ai mal moi-même. Mais quand le brouillard a commencé à s'estomper, puis quand j'ai commencé à m'en sortir, puis j'ai commencé à tranquillement avoir le goût d'y retourner, puis de me souvenir de comment je me sentais dans cette chaise-là, figurée, dans l'idée de dire « je sais où t'es », ou du moins j'ai déjà été à une place qui ressemble bien, bien, bien gros, je sais que je peux t'accompagner, je te tends la main, on va y arriver ensemble. L'image qui me vient souvent, il y en a plusieurs, vous allez voir, je suis très visuelle, vous allez le remarquer même à travers juste des ondes radio, en podcast. Pour moi, c'est d'aller chercher quelqu'un qui se trouve dans une pièce noire, 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 zéro lumière. Et oui, j'ai des diplômes, Oui, j'ai des connaissances, j'ai des expériences. Je suis contente de les avoir, je suis fière de les avoir. Je comprends que ça aide d'avoir toutes ces choses-là pour pouvoir se dire aidant, de stress, là, du moins. Mais en même temps, la grosse différence quand les deux on est dans cette pièce noire-là, c'est que moi, j'ai une bougie ou une lampe de poche, là. La réalité, là, c'est que, OK, oui, les connaissances et tout, mais moi, j'ai été aussi dans cette pièce-là et j'ai été capable de m'en sortir. Je sais un peu où le chemin pourrait se trouver. Ça te tente-tu d'essayer puis de me suivre? Essentiellement, c'est ce travail-là et je suis encore rempli d'humilité et de fierté quand il y a quelqu'un qui me dit, ouais, je te choisis pour être cette lueur de lumière pour moi. À chaque fois, je suis sidéré. Là, moi? Ouais, il y a quelque chose de... OK, merci. Et c'est je l'ai dit, je pense que je vais le dire, je vais vous gosser. C'est le métier le plus extraordinaire du monde. Aider les gens d'une façon aussi directe à traverser une période que tu connais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, bon, je pense que j'ai assez parlé. Ça va être plusieurs épisodes. Ça va être plusieurs épisodes. Je ne sais pas trop combien, mais ça va l'être. J'espère que d'avoir comme un petit look en arrière du rideau, là, si on était sur une scène, pour apprendre à me connaître un peu plus, vous aide à savoir un peu à quoi vous attendre, ne serait-ce. Je suis une experte pour certains, je présume, dans le métier d'aidante, mais en même temps, sur le divan, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est pas ça. C'est on jase, on jase. Je sais que c'est tough. J'espère qu'il y en a qui vont m'écouter, qui se sentent seuls là, qui sont en train de vivre ces périodes-là dont je parle, qui sont plus sombres à leur façon, puis qui ont besoin de quelqu'un maintenant. J'ai juste le goût, l'espoir que ça vous aide un peu à allumer votre propre bougie ou d'aller chercher votre propre bougie où elle se trouvera, lampe de poche. De vous donner le droit de vous aussi vous en sortir, mais croire que c'est possible de pas simplement rester dans le noir. C'est absolument ce que j'ai besoin de savoir que j'offre. Si c'est une offre qui vous parle ou qui pourrait vous aider, ben j'espère vous retrouver la semaine prochaine sur le divan. Mon nom est Tania Allaire. Je vous souhaite une sublime journée. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose. Si ça sera un moyen ou un gros quelque chose, c'est encore mieux. C'est pas mal ça. Bye, gang! Merci beaucoup d'avoir tendu l'oreille jusqu'à la toute fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. Merci de faire partie de cette conversation avec laquelle on apprend à faire face ensemble à ce qui peut être plus difficile à naviguer dans notre quotidien. J'aimerais beaucoup apprendre à te connaître, en fait. Donc, si ça te dit, viens nous rejoindre sur Facebook et Instagram et dis-nous ce que tu viens chercher sur le divan et quel sujet t'apprécierais que j'aborde dans les épisodes à venir. Bref, tes questions et tes commentaires seront toujours les bienvenus. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine et merci d'être là.